chanson française et l'accordéon. Vous me retrouvez avec la Miss Chantal dès demain matin, dès 9h jusqu'à midi. Une heure d'accordéon et 2 heures de chanson française. Pour Dimanche Bonheur, tout de suite, je vais vous laisser en compagnie de l'émission Polémix. Salut et à demain pour Dimanche Bonheur. Bye bye. Et vous retrouvez l'émission Zouk tout à l'heure. Signé Jean à 17h jusqu'à 19h, balade intertropicale. Salut et à demain.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
On a aujourd'hui une histoire qui, soit par enterrement d'événements, soit par présentation d'événements sous un jour apocalyptique et entièrement faux, transforme la population en lot d'un culte. C'est une condition nécessaire pour faire accepter à la population un sort inacceptable. Une population qui est mise dans l'état de ne pas réfléchir à son sort. C'est ce qui arrive dans les phases de crise aiguë, quand la solution à la crise impose des solutions de force, pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons économiques et sociales. C'est la même question que dans les années 30. Comment casser le salaire? Sauf cette période 40-44, je ne connais pas de situation plus noire pour l'université que la situation actuelle.
Plus on vide le cerveau des gens, plus l'époque pue le fascisme. Salut, c'est JBD, c'est la voix off avec aujourd'hui l'historienne Annie Lacroix-Riss, professeur émérite à l'Université Paris 7, pour une fois de plus parler d'une ère de la guerre, la connaissance de notre histoire, la fabrique et l'enseignement de l'histoire, ou plutôt son non-enseignement, au profit de propagande de droite. Comme n'importe quel oppresseur et n'importe quel exploiteur, la bourgeoisie capitaliste au pouvoir en France depuis 1789 a tout fait et fait tout pour que les Français ne connaissent pas leur histoire. Et en 2021, la situation s'est encore aggravée avec des fermetures d'archives qui empêchent un peu plus les quelques historiens honnêtes qui nous restent de faire leur travail. La grande bourgeoisie qui nous gouverne ne tient pas à ce qu'on raconte 200 ans de ses méfaits, crimes, complots et autres trahisons. Car un peuple qui ne connaît pas son passé est un peuple sans avenir. Incapable de comprendre le présent, plus facile à dominer. Quand on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où l'on est, ni où l'on va, même quand c'est dans les bras du fascisme que ce fascisme est la tête de Le Pen ou celle de Macron. Étudier notre histoire, et pas seulement l'histoire des rois, des riches et des puissants, mais étudier notre histoire populaire, les batailles des classes laborieuses, les conquêtes sociales et aussi les défaites, comme par exemple la Commune de Paris, l'étude de notre passé sert à éclairer un présent pas très reluisant, Annie Lacroix-Riss, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous sommes au printemps 2021, au moment de l'enregistrement de cette émission. 150 ans après la Commune de Paris, révolte populaire, patriotique, progressiste, révolutionnaire. Commune qui ne dure que 72 jours, mais aux répercussions internationales. Et qui n'est surtout pas célébrée, car la Commune de Paris fait toujours peur à la bourgeoisie. Parce qu'il y a des choses qu'il est poli de commémorer, et pour les gens très bien, ce fâcheux exemple de la commune n'en fait surtout pas partie. Les médias et les manuels scolaires contrôlés par la bourgeoisie nous abreuvent de célébrations du tyran sanguinaire que fut Napoléon Bonaparte. À longueur d'émissions payées par le contribuable de la République, Stéphane Bern passe son temps à lécher des fesses aristocratiques et à pleurer sur cette pauvre Marie-Antoinette qui avait juste un peu comploté pour faire envahir la France par des Autrichiens. Pensons aussi à ces politiques qui gémissent à longueur de médias sur cette horrible nuit du 4 août 89 où furent abolis les privilèges de la monarchie, ou à ces publicitaires de droite qui ululent contre la vilaine terreur de 93 et contre le méchant Robespierre, méchant Robespierre. Il est aussi ces derniers temps à la mode de salir la résistance de 40-44 contre l'occupant et de faire passer les résistants pour des assassins staliniens. Bah oui, les résistants, les communistes donc, auraient finalement été pires que les fascistes. Et à propos de réhabilitation du fascisme, il est aussi redevenu très tendance de commémorer Pétain, voire même comme Macron en 2018, de célébrer ce maréchal qui ne l'était plus depuis son procès de 1945. Car, disait Macron, même si Pétain avait été moyennement cool entre 40 et 44, par contre, le premier Pétain de 1917 aurait été un grand soldat, ce qui est d'ailleurs complètement faux.
Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième.
Tout ça, c'est de la célébration politiquement et médiatiquement correcte. On peut même tolérer qu'avec un très large écho médiatique, des militaires fascistes commémorent la tentative de putsch de 1961. Par contre, blackout est tabou sur la Commune de Paris. Bien qu'à l'approche des 150 ans de sa commémoration, la Commune est très légèrement ressurgie dans des programmes scolaires après plus de 40 années d'enterrement. Commune de Paris, pas bien, Annie Lacroix-Riss.
Alors, c'est très logique. D'abord, je dirais que les grands médias, c'est-à-dire l'idéologie dominante, la bourgeoisie dominante, qui, il faut tout de même le rappeler, les possède, s'est toujours fait une règle de ne jamais commémorer les choses gênantes, parce qu'il y a deux tactiques. Il peut y avoir commémoration, il peut y avoir enterrement. Quand il y a commémoration, en forme de mobilisation de la terreur, commémoration de l'horreur. Bon, alors, sur la Commune, il y a des tas de trous comme ça. Je rappelle, c'est en dehors, en apparence de cette question, mais c'est très lié aux questions dont on va débattre, notamment la similitude entre cette présente crise et la crise antérieure, c'est-à-dire les années 30. La grande bourgeoisie ne rappelle jamais, en termes historiques, ce que c'est, par exemple, que les accords de Munich de 1938. En revanche, à chaque fois qu'elle mène une guerre quelque part, à commencer par les États-Unis, qui ont tout de même, sans parler de ce qui s'est passé avant les années 1990, ravagé le Moyen-Orient, accumulé les morts à des effectifs qu'on ne peut même pas évaluer, hein, sauf quelques chiffres pris par-ci, par-là, les 500 000 enfants morts en Irak, du blocus et des embargos. Mais par contre, donc, à chaque fois que le capital financier et ses États se lancent à l'assaut d'un pays souverain, on nous dit qu'il est absolument exclu de recommencer l'affreuse lâcheté qui a caractérisé Munich. Mais on ne commémore pas Munich. Jamais.
En 1938, France et Angleterre signent un pacte de non-agression avec l'Allemagne d'Hitler, ça s'appelle les accords de Munich, un an avant le pacte germano-soviétique que les nazis proposent à l'URSS en 1939. Et bizarrement, à l'école et dans les médias, on se souvient toujours de 39, mais jamais de 38. Nous y avons consacré de nombreuses émissions en écoute sur notre site polemixetlavoixoff.com. Il suffit de taper Munich dans le moteur de recherche du site.
Et la Commune, ça fait partie de ces non-commémorations ou commémorations avec des cris d'horreur. On va remarquer que il y a une extraordinaire similitude de classe entre l'attitude de M. Pierre Nora.
Pierre Nora, médiatique historien en chef de la bourgeoisie.
Pierre Nora, qui nous dit commémoration de Napoléon, ah oui, mais commémoration de la Commune, ah non, quelle horreur, on ne dira pas pourquoi, mais c'est vraiment abominable. Et la position de droite et d'extrême droite, qui a pour elle d'ailleurs, comme celle de la bourgeoisie, le mérite de la conscience et d'une plus grande explicitation.
Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte.
La Commune, c'est en fait l'amorce de la première révolution de type prolétarien. Et quelle qu'ait été la timidité de la Commune, qui n'a pas osé s'attaquer à la Banque de France, dont la classe ouvrière est marquée par la timidité de ce qu'est la prise de décision économique, parce que c'est ça la clé d'une révolution. Qu'est-ce qu'on va faire de la propriété des moyens de production ? La Commune, c'est quelque chose d'extrêmement important à tous égards, et à double égard, qui est insupportable aujourd'hui au capital financier, comme d'ailleurs déjà à l'époque. Parce qu'il y a dans la Commune, bien sûr, il y a une dimension nationale, elle est aussi essentielle que la dimension nationale révolutionnaire de la Grande Révolution, quelles que soient les erreurs qu'elle ait pu commettre, qui ne sont pas des erreurs d'ailleurs, qui sont des décisions de certains courants de la Révolution, comme la décision de la guerre qui, disait Robespierre en 92, allait déboucher sur un dictateur militaire, il faut le rappeler.
Les Français vont en effet connaître la dictature de Napoléon Bonaparte pendant près de 20 ans, de 1795 à 1814. Robespierre ne s'était pas trompé.
Nous qui entendons tous les jours que Robespierre est un monstre sanguinaire, Robespierre est une des personnalités les plus clairvoyantes, les plus intelligentes qui nous a été donnée de produire. Et donc, on a cette dimension nationale qui est essentielle dans la Révolution. La Révolution, elle se défend contre la coalition des classes dirigeantes dirigées par l'Angleterre d'un côté, par la Prusse et d'autres royaumes de l'autre, et qui, dans le manifeste de Brunswick de juillet 1792, promet à Paris d'être rasée jusqu'à la racine. Bon, elle a cette dimension qui est aujourd'hui ridiculisée. Et puis elle a une autre dimension qui commence à être appliquée dans ces fameux 72 jours et qui montre bien d'ailleurs que toute révolution, évidemment, s'engage dans un processus de très longue haleine, mais prend des mesures immédiates susceptibles de changer la vie des gens. En particulier, l'égalité des salaires, la suppression du travail de nuit, le moratoire des loyers, le moratoire des paiements pour les gens qui n'ont plus d'activité, etc., y compris le petit commerce. Tout ceci, évidemment, c'est l'autre dimension, c'est-à-dire de classe, qui fait d'ailleurs que la Commune, c'est un cas exemplaire et pour les adversaires et pour ses partisans. Quand les bolcheviks se lancent dans ce qui est d'ailleurs comme commémoration chez nous, sans cesse présenté comme une espèce de coup d'État d'une minorité assoiffée de sang et antidémocratique, octobre, enfin novembre 1917, c'est aussi l'obsession de Lénine de durer autant que la Commune, qui, par toute une série de mesures, dicte la voie pour les bolcheviks. On comprend d'un côté la vénération des bolcheviks pour la Commune et la haine de classe, disais-je, puisqu'elle est partagée par l'ensemble de l'arc de la bourgeoisie, de manière soit distinguée ou discrète, soit déchaînée. Il faut se rappeler, par exemple, quelqu'un comme le cardinal Baudrillard. Il meurt en mai 42. Il est un de ces ecclésiastiques significatif, parce qu'il était devenu pro-allemand comme il fallait, il le fut. Quand on lit ce cardinal Baudrillard, c'est un érudit qui a fait des études de haut niveau, mais que la haine de classe aveugle au point que ces textes de l'occupation, sa haine anticommuniste, sa haine de la résistance communiste, je rappelle quand même que à l'époque, il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein, elle est toujours tissée de remarques sur la commune, comme nos enfants qui sont nourris au lait de la haine de la Russie, de la haine de la Chine, qui prend des formes apocalyptiques, il suffit de lire Le Monde. Je suis effrayée, hein. On a cette espèce d'obsession anticommune qui fait de Baudrillard, pour quelqu'un de sensé, quoi, un quasi-fou. Mais l'obsession de Baudrillard, c'est la véritable obsession des classes dirigeantes. C'est-à-dire cette deuxième dimension de la commune, dimension de classe, qui anticipe sur la collectivisation des moyens de production et d'échange que n'a pas tenté la commune, c'est ça qui est insupportable. Or, dans une période de crise, nous sommes à cet égard dans une période exemplaire de crise. Nous avons un niveau de propagande égal, à certains égards supérieur, je vais expliquer pourquoi, à celui qui a été déployé dans les années 1938-1940, avec une insistance sur tous les types d'ennemis étrangers ou intérieurs, que ce soit les musulmans tous alignés sur les salafistes ou à peu près, en faisant ignorer naturellement à la population que quand même les dix salafistes, on les a un peu aidés à la remorque des États-Unis qui ont liquidé depuis les années 60, je dis bien liquidé par le fer et par le feu, tout ce qu'il y avait de progressisme, et il y en avait, et beaucoup, dans les milieux musulmans du Moyen-Orient et de l'ensemble du monde. Donc, ils ont remplacé les juifs.
Les Arabes ont remplacé les juifs en tant que bouc émissaire responsable de tous les malheurs de la patrie, comme les juifs dans les années 30, quoi.
On a une propagande anti-ennemi extérieur qui n'a rien à envier à ce qui se passait en 38-40, c'est-à-dire la haine qui était déversée sur l'Union soviétique tous les jours. On pouvait discuter ensemble au bistrot des méchants soviétiques. Ben, c'est comme ça chez nous aujourd'hui, à propos des Ouïghours de la Chine, à propos de Navalny. Enfin, un barrage de propagande dont il n'y a pas d'équivalent. À la différence des années 1930, il n'y a plus rien en face. De la commune dont on ne parle pas aux choses dont on parle, nous subissons actuellement un assaut de propagande dont je vois le meilleur équivalent entre l'été 1939 et l'agression allemande du 10 mai 1940.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce qu'est la propagande de Vichy d'un État putschiste installé grâce à l'occupation du territoire. L'école en 1938-1940, bien sûr, c'est une école de classe. Il n'y a qu'une toute petite minorité, ça doit faire 30 000 par an de gamins originaires de la bourgeoisie qui fréquentent les lycées, qui font des études de long terme, qui se disposent à être les cadres de la nation, parmi lesquels il y a quand même peu de dissidents.
La domination de la population passe donc par la casse de la fabrique et de l'enseignement de l'histoire. On l'a vu dans une précédente émission, hein, en épluchant sa collection de manuels scolaires, André nous a expliqué que si la Commune de Paris occupe 10 pages dans le Malais et Isaac pour Bachelier de 1930, la Commune disparaît des manuels scolaires au milieu des années 70, quand le lycée s'est démocratisé. À l'approche de la commémoration de ses 150 ans, la Commune a très récemment refait surface dans des programmes scolaires après des décennies d'éclipses.
Les manuels scolaires, c'est un élément essentiel de propagande. Et je ne veux pas du tout idéaliser ces manuels scolaires que vous avez analysés avec André. D'abord, il y avait une idée, même si elle était fausse, et relevait de la propagande, il y avait une idée de la démocratie française qui était assez sympathique. Et il y avait, moi j'ai vu des vieux manuels de l'entre-deux-guerres, il y avait en histoire, quelle que soit la malhonnêteté de la présentation des choses, cette succession chronologique. Aujourd'hui, on a des manuels qui ne font pas 10% en volume d'informations de ce que représentait le Malaisac. Instrument de propagande, ça l'était. Il faut bien comprendre, par exemple, que dans la mentalité pro-coloniale qui nous caractérise et qui est un des fondements du racisme, particulièrement aigu dans les pays colonisateurs, il y a bien entendu la manière idyllique dont était présentée aux enfants de France la colonisation civilisatrice de la France. Mais il y a une donnée sur laquelle avait mis l'accent l'excellent petit ouvrage de Gisèle Jamais et Joël Fontaine sur l'enseignement de l'histoire, qui prenait pour prétexte l'enseignement de la question du fascisme, c'est-à-dire une déperdition sur consigne européenne, de déperdition de l'enseignement historique, de véritable casse de l'enseignement historique. Parce que l'enseignement historique est un élément absolument essentiel de la formation intellectuelle de la population. Avoir une idée à peu près correcte, inculquée par des professeurs qui ont un haut niveau scientifique, ça, c'était quelque chose d'absolument insupportable. Les consignes du ministère de l'Éducation nationale ont été un facteur de dégradation, ce même facteur de dégradation dont on enregistre le résultat dans le musée européen qui présente une véritable vision de cauchemar du communisme et de l'histoire de l'Europe. Pour mes professeurs d'histoire, et je pense en particulier à Madame Fauré, ma professeure de première et de terminale, j'ai quitté le lycée en 1965, et si elle était confrontée au contenu effroyable des manuels d'histoire, alignée finalement sur la résolution du 19 septembre 2019 de l'Assemblée européenne qui condamnait en apparence de manière égale le communisme et le nazisme, la condamnation ne portant que sur le communisme. Ça suppose une casse de l'enseignement historique et ça suppose une transformation de l'enseignement historique en véritable propagande. Or, je le dis là encore sans aucun excès, l'enseignement d'une histoire à la sauce dite européenne, c'est-à-dire qu'il faut forger une histoire de l'Union européenne, cette histoire est un véritable facteur de casse du minimum de connaissances historiques qui était accordé aux enfants, je dirais, il y a encore 30 ans.
Le 25 janvier 2006, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution 1481 assimilant les ex-régimes communistes d'Europe orientale et centrale au régime nazi. 13 ans plus tard, se référant explicitement à cette résolution, le Parlement de l'Union européenne, dans sa session du 19 septembre 2019, a récidivé en adoptant une déclaration sur l'importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe concernant le pacte germano-soviétique d'août 1939, qui serait l'unique responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Ce texte du Parlement européen du 19 septembre 2019 constitue de fait un véritable manifeste d'écriture révisionniste de l'histoire qui a soulevé dans la plupart des pays de l'Union européenne l'indignation non seulement des anciens combattants contre le nazisme et le fascisme, mais aussi d'élus de toute tendance démocratique ainsi que de très nombreux historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Sans parler de toutes ces femmes et hommes de diverses sensibilités et de toute génération soucieux de vérité historique. Mais à part ça, vive l'Europe, hein.
Ce sont des instructions qui visent à complètement saboter l'enseignement d'histoire. Il n'est que de voir d'ailleurs l'état des manuels. Il s'est agi de casser ce que j'appelle le contenu de la discipline, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on parvienne à la situation dans laquelle on arrive, avec des concours modifiés, où le contenu disciplinaire importe moins que le contenu idéologique. C'est explicitement précisé et on arrive au résultat calamiteux créé par la mise en cause systématique à la fois de la source, c'est-à-dire de ces fameuses archives qui rendent l'histoire tellement difficile pour ceux qui veulent abêtir la population, mise en cause des sources, mise en cause de la chronologie. Or, quelque chose qui s'est passé à un moment donné est le fruit de quelque chose qui s'est passé avant. Donc, bouleverser la chronologie, c'est déjà casser l'histoire. Et on le voyait bien dans les véritables ouvrages de propagande qui se sont multipliés depuis quelques décennies dans l'ensemble des moyens audiovisuels et d'ailleurs dans la presse écrite aussi, qui se pique d'histoire et qui embauche des historiens véritables ou des historiens prétendus. Je pense à l'extraordinaire objet de propagande qui a été la série Apocalypse. La série Apocalypse sur l'URSS, par exemple, est une véritable caricature. Elle commençait en 1943, on retombait en 1917, une demi-heure après, on était passé entre deux en 1941. Donc, cette case de l'histoire, je ne dis pas que l'histoire était progressiste, je ne dis pas que l'histoire enseignée nous rendait tous intelligents, mais l'histoire n'avait pas ce caractère d'abrutissoir qu'elle est devenue et qui est prescrit par les consignes du ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs décennies. Donc, oui, on a aujourd'hui une histoire qui, soit par enterrement d'événements, soit par présentation d'événements sous un jour apocalyptique et entièrement faux, transforme la population en l'eau d'un culte. Je dis ça sans mépris aucun, c'est une condition nécessaire pour faire accepter à la population un sort inacceptable.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes.
Il y a d'une part, évidemment, quelque chose qui est constant, qui est que l'idéologie dominante, c'est l'idéologie de la classe dominante. Il y a une autre chose, et qui est essentielle dans le sort particulièrement tragique de l'enseignement et de la diffusion de l'histoire aujourd'hui, c'est que il n'y a plus le minimum de résistance idéologique possible vu la destruction des organisations de défense. Quand il y a dans la société un mouvement de défense des salariés, un mouvement syndical, un mouvement politique, qui, quoi que la bourgeoisie fasse contre lui, tout de même se développe un peu et par conséquent influence une partie de la population. Ça n'est plus le cas. Les organisations sont détruites, la base idéologique sur laquelle elles reposaient s'est détruite et même autodétruite. Je pense par exemple à un parti comme le PCF qui, à partir de 1997, considère finalement qu'il n'y a quasiment rien de plus horrible que ce qu'il considère comme une dérive permanente, c'est-à-dire la révolution de 1917 qui serait putschiste et par conséquent dont il n'y aurait rien à tirer. À partir du moment où, dans le contenu disciplinaire, quand vous êtes un scientifique, et dans le contenu idéologique, quand vous êtes le représentant d'un mouvement, vous allez exclusivement sur le terrain de ceux qui ont intérêt à ce que vous ne compreniez pas les choses, c'est-à-dire des classes dominantes, alors on est dans une situation qu'on a rarement connue. On est dans une situation, je dirais, sur le plan idéologique, qui fait plutôt penser à ce qui a existé dans des pays d'ailleurs qui ont connu une révolution, hein. Je pense à la Russie ou je pense à la France d'Ancien Régime. Il y a une réaction au XVIIIe siècle portée par la bourgeoisie commerciale qui prétend prendre la part notamment politique qui revient à sa puissance et qui va déboucher sur la Révolution française, sa consolidation et le triomphe du capitalisme en France. Mais au moment où éclate la Révolution française, quelle est la force idéologique dominante? C'est le clergé qui, tous les dimanches, sans parler du reste, de l'ensemble des sacrements, de la naissance à la mort, de la gestion de l'école quand elle existe, c'est le clergé qui tient les populations. En France, c'est le clergé catholique. En Russie, c'est le clergé orthodoxe. C'est-à-dire qu'on a des populations pratiquement soumise à une mono-influence. Et ça finit quand même par craquer, parce qu'il y a un moment où les forces économiques et sociales, elles arrivent à un tel point que le cadre idéologique craque. Nous sommes dans une situation similaire, dans une situation absolument désespérante. La situation objective est effrayante, effrayante, de quelque côté qu'on se tourne, intérieur ou extérieur, et il n'y a pas d'issue. Parce que dans les décennies qui ont précédé, la destruction des institutions de défense, la casse scientifique, tout ça a permis que, face à une situation intenable, les populations soient réduites à ce qu'on veut nous faire accroire. Il y aurait près de 60% de la population qui trouverait un texte de putschiste retraité de l'armée tout à fait remarquable et correspondant à ses aspirations.
Un pouvoir insurrectionnel,
De Gaulle,
s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire.
1961.
Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques.
Il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, ce qui est quand même une novation en France par rapport au XXe siècle, on a une population qui est mise dans l'état de ne pas réfléchir à son sort. C'est ce qui arrive dans les phases de crise aiguë, quand la solution à la crise impose des solutions de force, pas pour des raisons idéologiques, des solutions de force pour des raisons économiques et sociales. C'est-à-dire que la question qui est posée aujourd'hui, c'est la même question que dans les années 30. Comment casser le salaire? Dans les années 30, casser le salaire, c'est casser le salaire direct. Il n'y en a pas d'autre. Ce qu'on appelle le salaire indirect est pratiquement inexistant. Tandis que depuis 1945 en France, 1946, pour parler de la sécurité sociale, il y a une partie considérable du salaire qui n'est plus direct. Or, la question qui est posée de manière aiguë aujourd'hui, bien entendu, c'est pour faire parvenir au niveau requis par les grands groupes économiques dominants, c'est de casser ce salaire, comme dans les crises précédentes. Mais c'est une casse qui passe non seulement par le salaire direct, c'est réalisé. C'est l'ubérisation, c'est la casse de tous les statuts là où ils existent. Je signale qu'à l'université, il doit y avoir plus de 50% de gens qui ne sont plus recrutés en fonction du statut. Et il faut y ajouter une casse du salaire indirect entre sécurité sociale et retraite.
Alors, puisque l'enseignement de l'histoire est verrouillé par des idéologues de la grande bourgeoisie, puisque les postes d'enseignants sont rares et leur accès contrôlé par des mandarins universitaires, cela suppose donc qu'un chercheur qui souhaite postuler à un emploi d'enseignant a intérêt à ne pas faire de recherches dérangeantes pour les gens au pouvoir. Parce qu'il y a en France des sujets tabous et qui fâchent, comme par exemple la collaboration industrielle et financière avec les nazis. Ça, c'est pas bien comme sujet. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'indépendance du chercheur en histoire contemporaine ?
L'indépendance du chercheur aujourd'hui, elle est à peu près nulle à partir du moment où le chercheur a une stratégie normale, faire de la recherche et aboutir à un résultat pour obtenir le poste qui y est afférent. La thèse d'État, pour parler de l'histoire, ouvrait le droit à être d'emblée professeur d'université. Il y en avait peu. Et en règle générale, à partir du moment où un jury vous avait agréé comme docteur ès lettres, vous aviez des chances de trouver un poste. Hein. Ça, on va dire que c'est jusqu'aux années 60-70. Et puis, il y a eu l'extension considérable de l'enseignement supérieur. Il y a eu la casse de notre système d'enseignement. Et il faut bien voir que l'espèce d'obsession sur les complotistes, la complotisation, a rendu aujourd'hui tabou, a interdit la réflexion sur les stratégies. Or, l'enseignement, c'est une stratégie comme n'importe quoi. Parce que les archives sont catégoriques là-dessus, et ceux qui ont des doutes n'ont qu'à un jour se prendre par la main et aller consulter des archives policières qui sont spécifiques de ces questions. Soit les archives des archives nationales, soit, quand on n'habite pas Paris, aller se prendre la main pour aller dans des archives municipales ou départementales qui sont ouvertes à tous les citoyens et aller chercher les fonds policiers qui y sont. Ou aller aux archives de la préfecture de police, là à nouveau pour les Parisiens, et qu'est-ce qu'on voit ? Par exemple en 68, parce qu'il se trouve que j'avais eu ce dossier, comment le recteur Antoine avait été embauché, littéralement embauché, par le patronat pour lui développer la réforme de l'université, qui est la réforme universitaire sur laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, depuis quelques décennies. C'est-à-dire un contrôle plus direct du patronat sur l'ensemble des études et notamment sur les études de sciences sociales. C'est comme ça. On peut m'expliquer que c'est complotiste, eh bien, que les contestataires se prennent la main et aillent regarder les fonds. À partir de ce moment-là, en sachant que l'enseignement est un élément des stratégies générales, c'est une question aussi stratégique que le contrôle de la presse.
Ça veut donc dire qu'un chercheur qui veut un jour décrocher un poste d'enseignant n'a pas intérêt à poser de questions mal polies. Par exemple, il ne faut pas trop chercher sur l'implication de la CIA dans la création de notre belle Union européenne si indépendante qui nous veut tant de bien, même si elle est dirigée par des financiers que personne n'a élus.
Soit il y a une question mal polie qu'il ne faut pas aborder du tout, parce que de toute façon, il n'y a pas 50 manières de l'aborder. Mais on peut aborder à partir du moment où on les aborde de manière biaisée. Je vais donner un exemple. Je rappelle le déchaînement qu'a entraîné en 2019 la sortie du bouquin du politicien d'extrême droite Philippe de Villiers, au titre assez amusant, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. C'est toujours cette fameuse vénération de l'Europe, dont il faut dire en toute honnêteté que c'est une invention, un projet de la CIA et un projet financé par la CIA, c'est-à-dire par l'État américain. Ce que le dit homme d'extrême droite a raconté est absolument conforme à mes sources. Il fallait trouver les archives de la correspondance entre Monet et ses soutiens américains, qui étaient les soutiens financiers de la CIA. Et donc, cet homme d'extrême droite, dont la partie non historique est absolument délirante dans le bouquin en question, il a fourni à peu près 100 pages de dossiers, ce dans quoi j'ai vécu pendant 20 ans, parce que j'ai passé 20 ans de ma vie dans les archives du Quai d'Orsay. C'est les archives du Quai d'Orsay. Ça montre que c'est une entreprise politique. Il faut transformer un projet absolument effrayant pour la population, parce que c'est un projet qui lui promet non pas la concurrence libre et non faussée, mais qui lui promet des salaires de misère, le bol de riz, et encore, c'est un peu luxueux. C'est ça la réalité historique. Et alors, il faut transformer ça en truc vraiment sympa, voilà. Alors moi, je lis le bouquin, mais j'y découvre tout ce que je sais, des choses que moi j'avais développées dans ma thèse d'état de 81 et qui sont entrées dans le domaine public avec la parution de la partie politique extérieure de ma thèse, c'est-à-dire avec la parution en 1986 du petit bouquin « Le choix de Marianne », c'est-à-dire que l'homme d'extrême droite, Philippe de Villiers, quand il fait un peu d'histoire, je laisse tomber le reste du contenu de son bouquin, bah, il aboutit forcément au même résultat que moi. Et d'ailleurs, c'est vrai ou ça n'est pas vrai, mais Couve de Murville, ce vichiste patenté, deuxième personnage du ministère des Finances de Vichy de 1940 à mars 1943, aîné que fréquentait Philippe de Villiers, lui dit à un moment, ce qui permet de répondre en partie à votre question initiale, « Mais oui, les historiens, bien sûr qu'ils n'en parlent pas, parce que de toute façon, Ils vont sûrement pas mettre leur carrière en danger en racontant des choses pareilles. Ben, enfin, il n'était pas historien, mon bon Maurice Couve de Murville. Mais il avait compris le topo parce que tout le monde le connaît. S'il y a des sujets qu'on peut aborder, on ne peut les traiter pour avoir un poste que d'une certaine façon. Évidemment, le livre de Philippe de Villiers, qui dispose quand même d'une autre publicité que la Croix-Rousse, hein, parce que ce que raconte Philippe de Villiers, c'est pas plus que ce qu'a raconté la Croix-Rousse depuis 30 ans et plus. Mais ça a eu un écho. Et l'écho a amené mes collègues piqués à s'insurger d'une chose pareille. À dire, mais comment ? Mais tout ce qu'il dit, nous l'avions dit. Ah bah, première nouvelle. Nous avions bien expliqué, en effet, l'influence américaine. Ah bon, nos étudiants le savent. Bah, on pourrait faire un petit tour de table. On pourrait raconter, par exemple, que quand il y a eu, entre 2007 et 2009, la question Europe au concours de l'agrégation et du CAPES. J'enseignais moi-même à l'université Paris 7. Les étudiants venaient de Paris 1, venaient écouter mes cours, absolument antagoniques avec tout ce que racontaient mes collègues, et ils me disaient, on ne pourra pas utiliser ce que vous dites, mais on vous assure, on vient ici pour survivre. Parce que c'était une véritable consigne de propagande. D'ailleurs, il y a sur mon site la critique de la bibliographie de 2007-2009 qui montre ce que cachait la bibliographie officielle, qui montre l'orientation qui était imprimée. J'ai réagi par un texte qui est resté, bien entendu, extrêmement confidentiel, en disant que Philippe de Villiers avait dit la vérité absolue, j'avais choisi plusieurs terrains, tout était authentique, n'importe quel historien qui travaillerait là-dessus avec des archives authentiques et surtout un traitement honnête de ces archives authentiques est aujourd'hui, a priori, privé de poste universitaire.
En 1981, Annie Lacroix-Rousse fait une thèse d'État sur le syndicalisme d'après-guerre. Est-ce qu'un chercheur d'aujourd'hui pourrait choisir le même sujet ?
J'ai fait, je crois que c'est la seule thèse d'État qui existe en France sur la Confédération Générale du Travail entre la Libération et 47. Il y avait eu une grande thèse d'histoire du mouvement ouvrier, thèse d'État, qui était la thèse de Claude Villard, et il existait une tradition en France d'histoire sociale, politique, comme avait dit un des membres de mon jury de thèse, qui n'aimait pas ma thèse, bien que ma thèse ait eu les félicitations à l'unanimité. Antoine Pro, vous faites une histoire politique du social. Je fais déjà une histoire du social, une histoire économique, après quoi, évidemment, je fais forcément une histoire politique. Mais tous mes collègues font une histoire politique. Car il n'y a pas d'historien qui ne fasse pas d'histoire politique. Ça n'existe pas. Bon. Et j'ai eu une manière de traiter le sujet relativement protégée par la structure même de la thèse d'État, qui, je le rappelle, a été abolie en 1984. Dans ce processus enclenché de casse de l'enseignement en France, qui était au niveau le plus élevé de la hiérarchie académique, c'est-à-dire la thèse d'État, qui était une garantie. Parce que la thèse, qui était une thèse de privilégié, qui a permis l'émergence d'une vraie historiographie française et de qualité, c'était qu'une thèse d'État, ça demandait un traitement d'un fonds d'archives. Avant ma thèse d'État, moi j'ai commencé en 70, on disait à un chercheur, bon, ben vous avez ce petit paquet, c'était en général un très gros paquet, vous allez nous éplucher tout ça, puis vous allez nous sortir votre sujet. J'arrivais à une époque où on entrait dans l'histoire contemporaine, plus contemporaine qu'avant, parce que le très pro-américain Renouvin, spécialiste d'histoire contemporaine, avait mis le boisseau sur l'histoire contemporaine, et que jusqu'à ce qu'arrive la période où j'ai commencé mon sujet de thèse, les thèses d'histoire contemporaine s'arrêtaient à 14. À 14. Il y avait extrêmement peu de thèses d'État qui étaient allées au-delà de 14. J'ai fait quelque chose qui ne s'était pas vu dans les thèses d'État, qui s'est vu beaucoup après, hein. Moi, je partais de la Libération. alors qu'on avait à l'époque rien sur la Deuxième Guerre mondiale, tous les fonds étaient fermés. Rien sur l'entre-deux-guerres intérieure, tous les fonds étaient fermés. Et cette thèse d'État, à partir du moment où on obéissait au devoir d'érudition, où on savait manier la langue française et où on avait appris son métier d'historien, il ne faut surtout pas s'imaginer que l'université ait été en France, à quelque moment que ce soit, pro-marxiste ou marxisante. Hein. Mais moi, c'est la règle que mes professeurs m'ont enseignée. Et c'est une règle qui avait été favorisée, évidemment, par les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, avec la progression de la pensée des communistes et des progressistes, incontestablement, avec le prestige qu'avaient gagné les marxistes, finalement, entre les années 30 et l'occupation. Il y avait un respect d'une certaine liberté intellectuelle, et moi, ce qu'on m'a enseigné, y compris chez mes meilleurs professeurs de l'enseignement secondaire, c'était que l'histoire, c'était une affaire d'érudition, et qu'un bon historien était un historien qui travaillait sur les sources, qui se confrontait à la production existante. Je fais une thèse d'État, donc je me prononce sur qui a dit quoi, je montre mon érudition, je construis ma petite maison. Et comme la thèse d'État ouvrait à peu près sur le poste nécessaire, on avait une protection dont le rempart était le statut de la fonction publique dit Maurice Thorez, parce que on le doit à un ministre communiste quand même, ce statut de la fonction publique qui donnait aux fonctionnaires une indépendance intellectuelle dont beaucoup de pays n'ont pas l'équivalent. On pourrait me dire, bah alors pourquoi il y a tant de thèses américaines qui sont si intéressantes alors que chez nous maintenant il n'y en a plus? Bah, parce que finalement, l'histoire est une discipline tellement réservée à une minorité cultivée sans qu'elle ait jamais d'écho dans la masse de la population, ce qui n'est pas le cas de l'histoire en France, qu'aux États-Unis, bien qu'il ne faut pas l'ignorer, et l'essentiel de la production soit, comme chez nous, une production qui gagne les plus hauts postes, les plus prestigieux, etc., on a une masse d'excellents travaux, tellement réservés à des happy few, hein, je rappelle quand même, hein, les universités américaines, 30 à 50 000, 60 000 euros ou dollars l'année. Hein. On a le droit à quelques vérités quand même, quand papa et maman peuvent payer 50 000 euros de droits annuels. Moi, j'étais donc prof à Paris 7 à partir de 97. À un moment, j'avais des étudiantes américaines dans mon séminaire. C'était il y a plus de 20 ans. Je discute avec elles un jour en sortant de cours. Alors, je leur dis, mais quels sont vos droits annuels que vos parents paient? C'était à l'époque plus de l'équivalent aujourd'hui de 30 000 euros. C'était au début des années 2000. Il faut avoir ça en tête. Ce que nous n'avons plus, parce que la casse de la thèse d'État a permis à l'environnement extérieur de jouer dans la carrière un rôle essentiel. On ne soutient pas sa thèse tout de suite, on soutient une thèse d'habilitation, et si on n'a pas porté les valises et les autres impedimenta des professeurs, eh ben on n'y arrivera pas. Donc, oui, on peut traiter de sujets un peu délicats si on les traite comme il convient de les traiter, pas autrement. Et l'histoire est pleine et ignorée des gens qui ont soit abandonné leur thèse, j'en connais, moi. Alors, soit qui ont purement et simplement abandonné leur thèse, soit qui ont abandonné leur thèse en restant historien, et j'en connais qui sont allés, par exemple, comme prof de prépa, mais qui ont abandonné, et ça, c'est dans les années 80-90, parce que le mur de Chine était tellement élevé que, de toute façon, ils n'auraient pas eu de poste. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation qui, entre la thèse d'habilitation et, d'autre part, la manière pour les gouvernements successifs de casser le statut de la fonction publique, a été une habile manière pratiquée de manière systématique en matière sociale et générale aujourd'hui, c'est-à-dire la méthode d'extinction. Vous aurez le statut de la fonction publique jusqu'à votre mort, mais le système est fermé. Des gens comme moi, ça les a protégés, hein. Quand les associations ukrainiennes ont voulu me faire vider de l'université en 2004-2005 et ont obtenu de Chirac, qui y a délégué un sous-fifre, une heure d'entretien sur mon cas, il n'y avait pas le statut de la fonction publique, j'étais mise à la porte, hein. Bon.
En 2004, on a cherché à faire virer Annie Lacroix-Risse de son poste d'enseignante à l'Université Paris 7. C'était au sujet de l'Holodomor. L'Holodomor, famine, dont certains disent que le méchant Staline l'aurait volontairement organisé dans l'Ukraine de 1932-1933. Or, quoi qu'en dise Wikipédia, cette histoire de l'Holodomor n'a pas de fondement historique. Aucune trace d'archives. Annie Lacroix-Risse a par contre démontré que cette histoire de l'Holodomor, c'est de la propagande nazie de 1933, reprise à l'époque par les Occidentaux et dont se servent encore aujourd'hui des nationalistes ukrainiens. Et c'est le problème avec cette vilaine pétroleuse de la Croix-Risse. Pour démontrer ce qu'elle avance, elle fournit toujours des preuves sous forme d'archives impitoyables. Mais quand il n'y a pas de source, pas d'archives, on ne peut rien démontrer. Et ayant démontré ce qu'elle avançait, la Croix-Risse a donc continué à enseigner à l'université. Et jusqu'à ce jour de 2021, elle n'a jamais été attaquée en justice. Pendant toute sa carrière, elle a profité de la protection du statut de la fonction publique pour faire des recherches mal polies et démontrer des choses désagréables dont elle fait notamment des livres. Avec la précarisation des postes d'enseignants, quand on est prof en CDD, il est aujourd'hui devenu très compliqué de traiter de questions qui fâchent.
Le statut de la fonction publique, il ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce qu'on recrute des Uber. Qui sait en France aujourd'hui qu'un maître de conférence, qui est un poste titulaire, vous êtes capétien, agrégé, déjà titulaire, bénéficiaire du statut de la fonction publique, vous êtes recruté à l'université via le premier poste de maître de conférence, qui est un poste lui aussi de titulaire, et hop, soit vous devenez professeur parce que vous soutenez votre habilitation, soit pas du tout, mais vous êtes maître de conf jusqu'à la fin de votre vie. Mais c'est plus comme ça maintenant. La quasi-totalité des postes sont pourvus par contrat. Et il existe aujourd'hui, recruté tous les jours par les universités qui ont des effectifs étudiants écrasants, mais qui n'ont pas créé un poste et qui en ont baissé, sans créer des postes, évidemment, vu l'afflux, il faut bien quand même des gens devant les étudiants, hein, même si c'est peu de profs devant beaucoup d'étudiants, sont créés aujourd'hui des postes maîtres de conférence par contrat d'un ou deux ans. C'est-à-dire qu'on a conservé le terme et on a vidé le contenu. Quand je dis que ce sont des enseignants Uber, qui va commencer d'abord un sujet de thèse avec un contrat de deux ans, un sujet de thèse approfondi et un sujet de thèse dont le sujet lui-même est embarrassant, mais surtout dont la manière de traiter est embarrassante. Bien entendu, il n'y en aura plus. Nous avons aujourd'hui une université, mais c'est pareil dans tout le système de la fonction publique, où nous recrutons la moitié des gens comme Uber. Tout est bouclé. La population va s'en apercevoir d'ailleurs, hein, qu'elle vote Macron ou Marine Le Pen. Le système est verrouillé. La crise court et le système est verrouillé. Et on arrive justement à un moment où, dans le verrouillage, il faut que l'ensemble de la population soit empêchée de penser non pas à son statut rêvé, d'exposer tous les jours aux méchants terroristes, mais son statut réel, c'est-à-dire d'exposer aux tourments de la crise économique qui font que vous vivez plus mal que vos parents et que vos enfants vivent trois fois plus mal que vous. Et c'est ça la réalité qui rend l'enseignement d'une histoire correcte, honnête, forcément de classe, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qui prend en compte l'histoire des classes sociales, qui prend en compte cette remarque de Marx, parce que c'est une remarque objective, c'est pas une remarque d'un simple propagandiste. Marx dit que l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. N'importe quelle personne qui fréquente assidûment les archives, sait que l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. La seule différence entre quelqu'un comme moi et les collègues bien-pensants, c'est que les collègues bien-pensants ne le diront pas. Ils le savent. Ils sont dans la situation où est une collègue canadienne qui dit à propos de ses travaux, qui lui ont valu une véritable mise au placard, puisque sa thèse a été soutenue et agréée, mais ne lui a valu aucun poste, qui dit voilà, on est devant des gens qui sont comme vous, dans une pièce dont les murs sont noirs. Votre travail leur montre, leur démontre que les murs sont noirs. Ils vous disent non, non, ils sont blancs. Voilà. Et ça a abouti à ce que cette collègue a été bien entendu barrée et s'est vue dire, pendant sa soutenance de thèse par un des membres du jury, sur lequel j'ai fait une petite recherche, je crois que dans toute sa vie, ce grand enseignant a produit une brochurette de 110 pages. Je ne comprends pas d'ailleurs comment il a pu atterrir à un poste pareil, mais bon. Et donc, ce collègue l'a traité de folle en soutenance de thèse. Je me suis un peu renseigné. La folle, elle n'est pas folle. Pensez, dans un pays comme le Canada, il n'y a pas de statut de la fonction publique où il faut voir ce que sont les retraites. Puis le Canada, c'est encore plus difficile que les États-Unis, hein, à cet égard. Il y en a un peu, mais il y a moins de possibilités pour les dissidents de faire un travail approfondi qu'aux États-Unis. Mais on est dans une situation, en France, où si on ne marche pas droit, comme on vous a appris à marcher droit, parce que c'est pas compliqué, tout le monde sait comment marcher droit, tout le monde sait comment il faut se tenir à table. Un enseignant, un historien, il sait comment il faut se tenir à table. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où si on ne se tient pas à table, en maniant les couverts et les verres comme il est convenu de le faire, il est impossible de faire une carrière universitaire. Et ça explique d'ailleurs que, y compris à gauche, et même très à gauche, on sache très bien quelle plate-bande on peut emprunter et de quelle plate-bande il faut absolument s'écarter. On est dans une situation à cet égard bien pire, sauf l'occupation, où il suffisait d'être juif pour être rayé de l'université. Là, c'était clair, hein, mon cher. Sortez, hein. Le système de Vichy avait, je pense en particulier à cet infâme ministre de l'Intérieur, Pérouton, il y avait tout un dispositif qui s'est traduit, notamment, dès juillet 1940, par les premiers décrets qui permettaient de démettre immédiatement un fonctionnaire. Alors que, à l'université, les fonctionnaires, il n'y avait pas encore de statut de la fonction publique Maurice Thorez, certes, mais le poste de professeur des universités était à vie. Désormais, le poste n'était plus à vie puisqu'on pouvait démettre sur le champ n'importe quel fonctionnaire. Soit parce qu'on était considéré comme opposant. Il n'y avait pas des caisses, hein. Il faut bien dire que si aujourd'hui on faisait un petit nettoyage des universités, hein, malgré tout leur discours dingo sur les islamo-gauchistes et tout le tremblement, parmi les professeurs d'université, il y aurait peu de vidés. Mais là, on pouvait vider. Sauf cette période 40-44, je ne connais pas de situation plus noire pour l'université que la situation actuelle.
La qualité de la fabrique et de l'enseignement de l'histoire va d'autant moins s'arranger que nombre d'archives qui avaient pourtant été ouvertes dans de récentes décennies sont redevenues inaccessibles sous le règne de Macron. Et parmi ces archives policières, diplomatiques, industrielles, à nouveau impossibles à consulter, des documents relatifs aux années 20, 30 et 40. Et si ça se trouve, il y a dans ces vieux papiers des tombereaux de preuves accablantes démontrant, pourquoi pas, la complicité de la bourgeoisie française avec les nazis, ou des vérités dérangeantes sur les interventions coloniales de la France entre Algérie et Rwanda, par exemple. La mise sous boisseau des archives, on en reparlera avec Annie Lacroix-Riss, qu'on remercie. En attendant, tu peux réécouter cette émission et plein d'autres sur notre site polymixetlavoixoff.com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Reste-nous ça, approuve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier, vive la commune. Et ça mourra tous les Judas si ça marche de la sorte. Ils sentiront sous prénom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront sous prénom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur...